France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, en direct jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur les 5h30 de l'audition de François Bayrou devant la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires de l'Assemblée nationale. Et puis, pour le débat, nous recevrons une de nos grandes sociologues, directrice d'études à l'EHESS, qui livre après livre creuse la question de nos émotions et de notre intimité. Son dernier essai, qui sort dans 2 jours, constitue à bien des égards un aboutissement de son œuvre. Il s'appelle « Explosive modernité, malaise dans la vie intérieure ». Il sort chez Gallimard. En quoi la modernité modifie-t-elle nos émotions? Voilà la grande question qui traverse ce livre et que nous poserons à notre invité. Eva Illouz sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour Thomas.
La semaine fut-elle bonne?
D'accord. Ça va.
Oui.
Oui, ça va. Bon, on va essayer de faire en tout cas une bonne émission. Premier thème du duel, la situation dramatique à Gaza, à l'heure où l'armée israélienne annonce ce matin avoir intensifié son offensive avec des conséquences humanitaires qui, bien sûr, inquiètent énormément. Une situation humanitaire de plus en plus désespérée. À écouter Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Il était devant les membres du Conseil de sécurité. C'était avant même l'opération de ce matin.
Il y a des signes critiques de malnutrition sévère, et notamment parmi les enfants. Les stocks de nourriture sont faibles, vous pouvez encore trouver des aliments en conserve, mais il n'y a que ça et c'est très cher. Les soupes populaires proposent encore de la nourriture, mais il n'y en a pas beaucoup. La famine est à un haut niveau, même nous en souffrons.
Les mots puissants de Tom Fletcher au cours d'une semaine qui aurait vu Emmanuel Macron qualifier de honte l'action militaire du gouvernement israélien à Gaza. Il a précisé encore sa pensée ce matin d'ailleurs, où Donald Trump s'inquiétait, je le cite, que beaucoup de gens y sont affamés. Gilles, on va s'arrêter sur les mots parce que les mots sont nécessaires ici et difficiles et très très difficiles à choisir. On a beaucoup parlé cette semaine de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, aussi de reconnaissance de la Palestine. Quel tri faire entre ces mots? Quels sont les bons mots pour définir la situation dramatique que vit aujourd'hui Gaza et ses habitants?
Bon, c'est évidemment des sujets qui sont extrêmement sensibles. Pour réfléchir à ces deux questions, à la fois celle de la reconnaissance de l'État palestinien et de la qualification de génocide, il faut répondre à deux questions qui sont simples. C'est est-ce que c'est fondé, et est-ce que c'est utile? Les réponses sont différentes en fonction des sujets. Est-ce que c'est fondé pour le génocide? C'est une question juridique.
D'ailleurs, je vous coupe, mais j'ai été moi-même surpris d'entendre Emmanuel Macron dire que, à la question posée sur TF1 sur le génocide, il dit
c'est les historiens.
C'est pas aux historiens d'en juger.
Ce ne sont pas aux historiens. C'est une question juridique. Ouais. La qualification, est-ce que c'est un crime de guerre? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Est-ce qu'un génocide? C'est une question juridique et ce sont les juridictions internationales. Pour l'instant, l'état de l'art, si je puis dire, elles disent c'est plausible.
Oui.
Il y a des pièces qui se sont ajoutées au dossier depuis lors, à la fois des actes et des déclarations. Elles vont regarder notamment l'intentionnalité. Et l'intentionnalité, ça se regarde normalement par rapport aux minutes des cabinets de guerre. Et donc, il faut y avoir accès. Donc, à ce stade, sur est-ce qu'on s'est fondé, on en est là.
Sur l'utilité.
Non, je continue sur est-ce que c'est fondé pour la question de la reconnaissance. Là, c'est pas une question juridique, c'est une question politique. Dès lors qu'on est favorable au principe, ce qui est évidemment mon cas d'un État palestinien, la question de la reconnaissance est une question d'opportunité. Est-ce que c'est le bon moment? C'est rarement le bon moment, mais je crois que le moment est venu. Je l'avais déjà d'ailleurs dit dans un précédent débat ici avec Natacha. D'abord parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte que vous venez d'évoquer, c'est très important de sanctuariser l'idée des deux États au moment où, en Israël, cette idée perd du chemin, et que, d'autre part, il peut être utile de changer de méthode, c'est-à-dire de considérer que la reconnaissance n'est pas ce qui vient à la fin d'un processus de paix, mais ce qui permet de l'impulser.
Que ce soit, en somme, performatif.
Je termine mon raisonnement par l'autre question. Est-ce que c'est utile ? Dans ce contexte-là, et avant que donc, les juristes ne se prononcent, je pense que l'utilisation politique du mot « génocide » ne me paraît pas utile pour faire avancer la paix. Je pense qu'elle contribue beaucoup, encore davantage, à cristalliser les opinions et les acteurs sur le terrain. Et que par ailleurs, ce mot, dans son utilisation aujourd'hui dans le débat public, a pour effet, et pour certains, a pour objet, de délégitimer Israël pour en contester l'existence même. Donc, moi, ce n'est pas le mot que j'utilise. Et puis, dernière question, est-ce que c'est utile de la reconnaissance que Emmanuel Macron a évoquée pour dans peu de temps ? Évidemment, c'est purement symbolique, la reconnaissance. Ça ne change strictement rien, concrètement, pour la vie des Palestiniens et pour la vie des Palestiniens.
Mais un symbole peut être important.
C'est un symbole important et ça pourrait être vraiment utile si ce n'est pas la France seulement, s'il y a d'autres pays européens, et si ce n'est pas la reconnaissance de l'État palestinien seulement, c'est-à-dire si à l'occasion du sommet du 6 juin, il y avait un mouvement d'un certain nombre d'États arabes. Évidemment, dans le contexte actuel, ce n'est pas facile.
Natacha, finalement, la question du choix des mots, et je rebondis sur la notion d'utilité qu'évoquait Gilles à la fin, c'est aussi une utilité à très court terme. Faire plier Netanyahou, en tout cas, entraver sa politique si l'on considère qu'elle est dangereuse ou trop dangereuse pour les populations civiles de Gaza. Est-ce que les mots ont une efficacité en l'occurrence ici, ou est-ce qu'ils sont contre-productifs ? On a vu la réaction d'Israël après les propos d'Emmanuel Macron qualifiant de honte ce que faisait le gouvernement israélien à Gaza. C'était une déclaration très 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 en colère de la part du gouvernement israélien. Sous-entendu, on fait ce qu'on veut chez nous et si vous êtes dans le camp des terroristes.
Alors justement, quand vous dites la réaction d'Israël, oui, vous avez eu raison derrière de préciser la réaction du gouvernement israélien. Parce que je voudrais commencer mon propos en appuyant sur un fait qui n'est pas suffisamment rappelé ici en France. À savoir qu'il y a un débat en Israël. Et un débat extrêmement intéressant, profond. Soulignons-le tout de même, l'opération Chariot de Gédéon qui a été lancée et qui doit aboutir à l'occupation de Gaza doit s'appuyer sur des centaines de réservistes. Eh bien, ils sont seulement 50 à 60% à s'être présentés à l'appel. Ça veut dire que les autres manifestent leur hostilité à cette opération. Et je voudrais citer également un texte absolument magnifique signé de Gideon Lévy, membre de la direction d'Haaretz. Il a publié cette chronique le 23 avril. C'était une chronique pour évoquer ce jour de l'année où Israël s'arrête pendant une minute en mémoire des morts de la Shoah. Tout le monde s'arrête. Et il commence son texte en disant « Israël ne commet pas une Shoah contre le peuple palestinien. Pourtant, ces 19 derniers mois, il s'en est rapproché à une vitesse effrayante. Cela doit être dit et avec encore plus d'insistance aujourd'hui. » Et il parle de trahison de la mémoire de la Shoah. Ce qui ne signifie pas qu'il dise qu'Israël commet un génocide. Bien, ça n'est pas ça qu'il dit. En revanche, il dit que cela fragilise la mémoire et donc ce qu'est Israël. Et je pense que tout le monde devrait lire ce texte et permettre ainsi que le débat soit un peu plus apaisé en France et un peu moins instrumentalisé. Je rejoins ce qu'a dit Gilles sur la question du génocide. Je pense également que la question, moi aussi j'avais expliqué lorsque nous avions abordé cette question, que je pensais que la reconnaissance de l'État d'Israël par la France serait utile. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est d'exprimer fortement le fait que Israël combat le Hamas, mais que ce qui se passe en Cisjordanie n'a rien à voir avec le Hamas, et donc ne peut pas être justifié par cela. Or, ce qui se passe en Cisjordanie est parfaitement inacceptable. Donc, en effet, il va falloir voir quelle est l'utilité politique de cette expression de la nécessité d'un État et de cette reconnaissance de l'État de Palestine, qui serait tout à fait justifiée. Je veux dire, la France, le 18 avril 2024, a signé une résolution à l'ONU qui visait à faire de la Palestine un État membre de plein droit. Donc, quelle est la logique à ne pas reconnaître officiellement la Palestine? L'Espagne le fait déjà. Ça veut dire qu'on peut embarquer les autres pays européens et tenter de peser, même si je termine par là, le poids de l'Europe dans cette affaire est infime. En revanche, utiliser cela pour essayer de lier cela, Gilles l'évoquait, avec l'action des pays arabes, essayer malgré tout de peser et de ne pas se résoudre à être une fois de plus spectateur, serait utile.
Bah précisément, les pays arabes, ils se retrouvent aujourd'hui à Bagdad pour réclamer un cessez-le-feu permanent. Le chef de l'ONU l'a réclamé, lui aussi présent à Bagdad. L'Égypte également, bien sûr. Dans le même temps, l'Iran, et on l'a appris tout à l'heure, considère par la voix de Khamenei, son guide suprême, que Trump ment lorsqu'il dit chercher la paix à Gaza. Qui peut, en fait, aujourd'hui, contraindre un cessez-le-feu, ou permettre, pardon, un cessez-le-feu à Gaza, si l'ONU est inaudible, si les pays arabes en sont incapables, si les Européens n'en sont qu'à des injonctions et parfois à des attaques verbales mal supportées par le gouvernement israélien? Est-ce qu'on est là dans ce nouvel ordre mondial où la jungle l'emporte sur le jardin qu'elle était censée être après la Seconde Guerre mondiale, Gilles?
Alors, je ne sais pas si c'est une jungle. En tout cas, on est dans un état du monde qui n'a plus de régulation, qui n'a plus de régulateur. Il y a un acteur quand même que vous avez à peine évoqué, qui est les États-Unis et Donald Trump, qui conserve pour le coup un poids potentiel
énorme,
très important. Je ne sais pas comment il faut interpréter les propos de Donald Trump d'aujourd'hui même sur ces enfants qui sont affamés à Gaza. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Je ne sais pas, mais ce sont les États-Unis qui ont à l'évidence le plus de poids. Et je crois que Natacha a raison sur un point. Il y a un problème avec le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui n'est pas seulement Gaza, qui est évidemment Gaza, mais qui n'est pas seulement Gaza, qui est les atteintes contre l'état de droit en Israël. On en a parlé ici, et ce qui se passe en Cisjordanie, où il y a de plus en plus quelque chose qui ressemble à une annexion et à une couverture des exactions des colons.
Natacha, pour conclure.
Pour conclure, juste un petit point, rappeler que Donald Trump, le 5 mai déjà, avait eu cette déclaration. Nous allons aider la population de Gaza à se procurer de la nourriture. Et il ajoutait, et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup de gens agissent de manière très répréhensible. C'est-à-dire que même si Benjamin Netanyahou agit comme si Donald Trump le suivait totalement, et même si le maximum qu'ait fait Donald Trump jusqu'à présent, c'est cette déclaration sur des actions très répréhensibles, c'est déjà un petit signal qu'il pourrait y avoir là quelque chose qui aille un peu plus loin.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, on revient en France, où Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main. C'était mardi soir sur TF1.
Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Mais l'esprit, c'est qu'on puisse, sur des grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, saisir nos compatriotes.
On en parlait la semaine dernière dans le duel, on se demandait ce qui allait sortir du chapeau d'Emmanuel Macron. On imaginait des annonces percutantes et précises de référendum. Ça a été évoqué, on l'a entendu, mais ça reste très imprécis. Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Est-ce que c'était un coup pour rien? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette longue soirée sur TF1,
Natacha? Très longue. Deux remarques préalables. La première, c'est que je me pose une question de communication politique. Je ne suis pas experte, autant je sais parler de politique, autant la communication politique n'est pas mon métier. Et donc je m'interroge, qui a eu l'idée de cette émission et pourquoi? Parce que nous sommes dans une période durant laquelle le président de la République est forcé d'appliquer le fameux article 20 que je cite très régulièrement ici. C'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Il est donc retranché sur son domaine réservé. Et il se trouve que nous sommes en pleine crise internationale, ce qui lui permet de se mettre en valeur. Ce qu'il fait, d'ailleurs tout à fait honorablement, très bien sur certains sujets. Il est donc assez haut dans les sondages d'opinion, sa cote de popularité est plutôt très haute après plus de 7 ans de mandat. Et François Bayrou conformément à la Constitution, joue les fusibles et lui est très 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 bas. Alors quel intérêt y a-t-il pour le président de la République à venir devant les Français pour leur rappeler tout ce qu'il a mal fait, tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce pourquoi ils sont en colère? J'avoue ma perplexité, et j'espère que Gilles, qui connaît un petit peu mieux ces sujets-là que moi, pourra m'éclairer.
Il sourit et acquiesce à la fois, voilà. Donc il aura sûrement des informations importantes.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la cruauté, justement, d'un dispositif télévisuel, puisqu'il implique que l'on prépare l'émission, et donc il y avait sur le grand écran derrière Gilles Boulot et Emmanuel Macron, les titres des chapitres. Et à un moment donné, au moment où Gilles Boulot interroge le président de la République sur la question des référendums que tout le monde attendait, Il y a ces écrits derrière, magnifiques, « Référendum, deux points, les annonces de Macron ». Et on comprend bien que la chaîne de télévision, en fait, avait préparé cette émission pour ça, pour avoir l'exclusivité de ces annonces qui avaient dû être vendues par des conseillers en communication. Ou alors, c'est la chaîne qui s'est emballée, je ne sais pas. Le résultat est un décalage absolument tragique entre l'annonce et la réalité des choses, puisque nous n'en saurons pas plus que ce que nous savions déjà sur les intentions d'Emmanuel Macron. Pour le reste de l'émission, il y a eu des choses intéressantes dans cette émission, des choses très intéressantes. Mais elle était intitulée « Les défis de la France ». Et je dois avouer que, à part quelques bribes, je n'ai pas bien vu en quoi on prenait à bras-le-corps ces défis. J'ajoute quand même, il y a des sujets qui ont surgi et que je trouve très intéressants. La question d'une conférence sociale sur le financement du modèle social, le retour de la TVA sociale. Bref, on va pouvoir discuter de ces sujets de fond. Mais fallait-il 3 heures pour ça?
Et les sujets de fond ont-ils été masqué, caché dans un long moment télévisuel dont, Gilles, vous avez, je sens à votre sourire, à votre regard, quelques informations à nous donner.
Non, effectivement, j'ai souri en écoutant Natacha. Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai déjà dit ici, quand on prépare cette émission, nous ne nous parlons pas.
Ouais.
Et donc nous ne savons pas ce que les uns et les autres allons raconter.
Ça, c'est parce que vous ne vous supportez pas en dehors de l'antenne.
Et j'ai souri parce que par quoi je voulais commencer sur l'intervention d'Emmanuel Macron, c'était pourquoi.
Ça me rassure.
Pourquoi? Et donc, alors, je vais dire pourquoi et je vais faire mon hypothèse. Pourquoi
bien.
Faire si long? Pourquoi nous infliger ça? Ça m'a fait penser à une formule de Woody Allen en sortant d'un dîner qui a dit « j'ai passé une bonne soirée, mais c'était pas celle-là ». Et pourquoi faire l'émission?
Faut pas nous faire ça, là. Woody Allen à 12h22, c'est trop drôle.
Et pourquoi faire l'émission tout court? C'est-à-dire que l'émission en soi n'est pas raté. Emmanuel Macron a montré, comme d'habitude, sa maîtrise des dossiers, qu'il était endurant, qu'il était engagé, qu'il était performant. Mais le résultat est une catastrophe. C'est-à-dire, j'ai rarement vu des critiques aussi unanimement négatives sur l'analyse d'une émission et l'opinion dans les sondages qui ont suivi aussi unanimement ou aussi largement négative aussi. Et donc, là où il voulait reprendre la main, ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas, eh bien, il ressort affaibli à un moment où, au contraire, il retrouvait un peu d'espace. Alors, pourquoi? Mon hypothèse, c'est que l'émission est ratée parce qu'il y a eu un raté. Et que ce raté, c'est le référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je pense que quand Emmanuel Macron a décidé cette émission, son intention était d'annoncer des référendums sur TF1.
Précis.
Des référendums précis, une date,
d'accord,
des sujets. Et on ne peut pas comprendre autrement la manière dont la mayonnaise a été montée par les équipes de l'Élysée dans les semaines et les jours précédant l'émission. Et puis, il a refusé l'obstacle. Et je pense que ce faisant, tout change dans l'analyse que l'on fait de l'émission. Avec le référendum, on a un président qui agit, qui est tourné vers l'avenir. Sans le référendum,
qui est dans son rôle.
On a un président qui commente et qui est sur son bilan. Et ça change tout. S'il avait annoncé le référendum, aujourd'hui, de quoi aurait-on parlé? Du référendum et beaucoup moins du contenu de l'émission. Reste à savoir le pourquoi du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi, finalement, il a décidé de refuser l'obstacle.
Vous avez une hypothèse ?
Non, je n'ai pas d'hypothèse. Je pense que ça peut être des questions d'intuition, de sentir que ce n'est pas le moment.
C'est pas aussi le ballon d'essai Bayrou juste avant qui avait un peu explosé ?
Non, ça peut être une difficulté.
François Bayrou, je précise, qui avait appelé lui-même à l'hypothèse d'un référendum sur des questions budgétaires.
Ça peut être une difficulté in fine de passer du principe du référendum aux questions précises. Et c'est pas si évident. Ça peut être la crainte que ça se transforme en référendum anti-Macron. Il y a eu un chiffre dans le sondage IFOP révélé pendant l'émission, je pense qu'il a pu alerter le président. Quand vous avez 7% des Français qui considèrent que la situation de la France est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2017, c'est qu'il y a quand même un problème.
Natacha, un mot peut-être pour conclure ça ?
Non, je voulais juste...
Sur l'hypothèse de l'hypothèse, pourquoi ce refus d'obstacle alors ?
Je partage l'idée que la seule explication que je vois, c'est qu'il y aurait eu une difficulté à définir précisément la nature d'un référendum. Il y a des règles juridiques, il y a l'avis du Conseil constitutionnel pour savoir si tel ou tel référendum peut être proposé. Je reste très étonnée que tout ça n'ait pas été pensé avant.
Est-ce que ce n'est pas aussi la passion du président de la République pour nous surprendre ? Parce que là, il nous a surpris par l'annonce, par l'absence de surprise quasiment, ce qui est une forme de surprise.
Le grand face-à-face. Le duel.
Allez, troisième sujet du duel avec l'autre tête de l'exécutif, le Premier ministre François Bayrou, dans un face-à-face très tendu de 5h30 avec les députés de la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires à l'Assemblée nationale. C'était mercredi et il a bien sûr été question de ce qu'il savait des agressions physiques et sexuelles à Bétarame. François Bayrou a vigoureusement contesté les accusations de l'enseignante Françoise Gelung qui avait assuré l'avoir alertée dès 1993.
J'affirme que cette dame, elle a affabulé devant la commission. Je pense que cette dame a reconstitué, et fallacieusement, et sous serment, et c'est d'elle que vous faites la lanceuse d'alerte. Vous n'avez pas fait d'enquête sur la suite de sa carrière. Alors qu'elle dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été, par la médecine scolaire, réputée dérangée. Elle le dit devant vous. Devant vous.
Devant vous, Natacha, François Bayrou considère que tout a été clarifié lors de cette audition très longue, que toutes les preuves ont été apportées. Est-ce qu'il en a fini avec cette histoire ou est-ce que cette affaire pourrait aller jusqu'à l'emporter, François Bayrou ?
Il y a en fait plusieurs sujets autour de cette audition de cette semaine. Il y a la question du fond de l'affaire, et il ne faudrait pas l'oublier. Et il y a la question du rôle de cette commission et de la manière dont ça s'est déroulé, c'est-à-dire à la fois la question de François Bayrou lui-même, de ce qu'il savait, de la façon dont il se défend, de ce qu'il avait dit devant l'Assemblée nationale et de ce qu'il a dit devant cette commission, et en effet, le rôle de cette commission. Ça fait au moins trois sujets dans cette histoire. Pour le fond de l'affaire, il a été suffisamment dit à quel point elle est accablante, donc je ne vais pas le redire, mais quand on regarde la nature des faits, c'est absolument terrible. Pour autant, ce qui est intéressant, me semble-t-il, et qui doit entrer en ligne de compte quand on essaye de savoir ce que faisaient les politiques de l'époque et pourquoi il n'y a pas eu de réaction aussi rapidement, c'est la question du déni. Le déni et l'omerta, comment ça fonctionne ? Et j'y insiste parce que je pense que c'est si on arrive à comprendre cela qu'on peut anticiper et éviter de nouvelles souffrances, éviter que ce genre de cas ne se reproduise. Mmh. Or, il faut bien comprendre que Notre-Dame de Bétarame avait dans tout le Béarn une réputation d'un établissement d'excellence et qu'on y mettait les gamins, soit justement pour qu'ils soient portés par cette excellence, soit quand ils étaient un petit peu agités, bah, pour qu'ils filent droit, comme on disait à l'époque. Il faut se replacer là-dedans. Est-ce que tout cela a impliqué un déni qui fait que certains n'ont pas cru ce que disaient les enfants, parce que pour eux, c'était exagéré et qu'il s'agissait avant tout de leur apprendre un peu la discipline. On voit quelle peut être la mécanique. La fille même de François Bayrou dit qu'il l'aurait lui-même questionné lors de sa rencontre avec le juge. Est-ce que tu crois que c'est possible ça ? Il va falloir établir cette question, parce que savoir s'il y a eu déni ou s'il y a eu compromission pour éviter les ennuis, ce n'est pas du tout la même chose. Je termine sur le rôle de cette commission d'enquête. C'est essentielle. Pourquoi ? Parce que ces commissions d'enquête apportent beaucoup. Elles permettent d'éclaircir des sujets. Tout le problème, c'est de savoir si ce sont des enquêtes sur des sujets d'ordre politique, des grands choix politiques. Et pour le coup, je pense que c'est absolument légitime qu'une commission d'enquête se penche sur les grands choix politiques. Je pense à la commission d'enquête sur la politique énergétique, par exemple, qui permet de réfléchir aux ratés qu'il y a eu. C'est le rôle de la représentation parlementaire, plutôt que de faire des lois sans se soucier de la suite. Quand on entre dans les questions juridiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a aujourd'hui des députés qui savent qu'ils ne peuvent pas percer dans une Assemblée nationale fracturée. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent cet outil pour compenser cela. Je pense que ça dénaturerait un outil qui, moi, me semble très intéressant.
Cet outil, justement, la commission d'enquête, Natacha parlait de la mécanique du déni pour évoquer la mécanique de l'emprise aussi, pour évoquer l'affaire Betarame. La mécanique démocratique autour de cette commission d'enquête vous semble-t-elle satisfaisante, Gilles ?
Alors, je repars d'un peu plus loin. Moi, je défends fortement les commissions d'enquête. Ça fait vraiment partie des prérogatives essentielles du Parlement, a fortiori dans une période dans laquelle le Parlement est secondarisé dans l'élaboration de la loi, même
oui,
si c'est moins le cas depuis quelques temps. C'est une fonction absolument centrale qui a été contournée au début de la Ve République, dans laquelle les commissions d'enquête étaient cantonnées, elles avaient une durée limitée, un champ réduit, le rapport était secret, la création était contrôlée par la majorité. Et puis, et c'est un acquis de la démocratie libérale, gauche et droite confondues, tout président confondu depuis 50 ans. Avec Valéry Giscard d'Estaing, on a eu la publication des rapports des commissions d'enquête. Avec François Mitterrand, on a eu pour la première fois un droit de tirage, c'est-à-dire l'opposition avait la possibilité de demander des commissions d'enquête, et nouveauté qu'on a vue là aussi, elles étaient publiques. Avec Nicolas Sarkozy, la révision de 2008, elles ont été constitutionnalisées, et avec François Hollande, il y a un vrai droit de tirage pour l'opposition. Donc, il y a cet acquis-là.
Un contre-pouvoir puissant.
Et depuis 20 ans, on a eu des commissions d'enquête qui ont été extrêmement utiles sur la vache folle, sur Outreau, sur les déserts médicaux. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème ?
Oui.
Et je crois qu'il y a un problème. D'abord, il y en a trop. Je regardais, j'ai été stupéfait par des chiffres que, en réalité, je ne connaissais pas. Entre 2017 et 2022, 27 commissions d'enquête. Entre 2022 et 2024, 21. Et depuis juin, 9 commissions d'enquête. C'est trop.
C'était très rare avant.
C'était rarissime.
Ah ouais.
Il y en avait trop peu. Aujourd'hui, il y en a trop.
Ouais.
Sur les thèmes, là, quand Laurent Wauquiez annonce la création d'une commission d'enquête sur l'extrême, sur LFI et l'islamisme, on voit que ce n'est que un outil politique. Et dans le déroulement des commissions d'enquête elles-mêmes, on voit que une recherche de vérité transpartisane, qui était la marque des commissions d'enquête, se transforme de plus en plus en l'administration d'une position militante. Et donc, je crois qu'il va falloir réfléchir à ça, à ce que les parlementaires réfléchissent à ça, qui n'est en réalité pas un problème juridique, qui est l'illustration d'une mécanique de la situation politique actuelle, de son éclatement et de sa polarisation, parce que il va finir par y avoir un retour de bâton.
Natacha, c'est ce que vous commenciez à évoquer aussi sur cette inflation de commissions d'enquête avec des arrière-fonds, des arrière-pensées politiques, voire politiciennes, qui peuvent en effet produire l'inverse de ce qu'une commission d'enquête doit produire.
Bien entendu, c'est ce que je disais, il y a eu des commissions d'enquête très très utiles. Je suis totalement d'accord, je souscris totalement à tout ce qu'a dit Gilles, c'est pour ça que je vais pas m'étendre beaucoup. Alors, et après, les questions qui peuvent se poser, c'est par exemple quand Alexis Kohler refuse de témoigner au nom de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qu'au départ, dans les commissions d'enquête, ça concernait uniquement l'Élysée. Ça touche maintenant le secrétaire général de l'Élysée. Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il faudra éclaircir, mais pour le reste, oui, ce serait dommage que tout cela abîme cet outil très intéressant.
Et cet outil très intéressant abîmé, on pense aussi évidemment à Betarame, au drame de Betarame, aux émotions. Et j'enchaîne, et je prépare la transition avec notre invité, les émotions très puissantes que cette affaire Betarame a mise à jour, la colère, la peur, la honte, voilà qui est au cœur du travail de notre invité. Place au débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Eva Illouz.
Bonjour Thomas.
Merci d'avoir accepté notre invitation en direct jusqu'à 13h sur France Inter. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Vous enseignez également à l'université de Zurich en Suisse et de Zeppelin en Allemagne. Livre après livre, vous n'enseignez plus dans ces universités, vous auscultez nos sentiments, l'amour, le bonheur ou la haine au temps de notre modernité capitalistique et technologique. Vous publiez dans 2 jours chez Gallimard un grand livre, un livre important je pense, qui synthétise une bonne partie de votre œuvre. Le livre s'appelle « Explosive modernité, malaise dans la vie intérieure », allusion volontaire à Freud, je pense que vous nous aiderez à la comprendre, cette allusion. Ce malaise dans la vie intérieure, on va le creuser ensemble en passant par la littérature de Madame Bovary à l'œuvre de Kafka ou de Shakespeare, voire Maupassant. Mais j'aimerais d'abord vous poser une question à vous, la franco-israélienne que vous êtes. Votre précédent livre était un tract Gallimard consacré au jour d'après, le 8 octobre. Et ce qu'il a révélé, selon vous, d'un antisémitisme de gauche. Et il y a depuis quelques jours une série de prises de parole de la part de juifs français, à l'image de Delphine Horweiler, d'Anne Sinclair ou de Johann Sfar, qui disent leur bouleversement sincère face à la violence, au drame humanitaire qui se déverse sur la bande de Gaza et ses habitants. Dans Le Monde, daté d'hier vendredi, le dramaturge Marc Goldberg signe une tribune dans laquelle il a ces mots très puissants. « Pour ma part, juif des Lumières, spectateur impuissant de ce désastre, je me consume de l'intérieur. » Comment est-ce que vous, Eva Illouz, vous entendez ces mots? Est-ce que vous partagez ce sentiment « je me consume de l'intérieur » ?
Alors, je dirais que il y a un malaise, mais qui n'est pas récent pour moi. Enfin, ce malaise s'est mis en place dès le 7 octobre. Il s'est mis en place et il s'est mis en place parce qu'en fait, les juifs, les Français juifs de gauche comme moi, se sentaient tiraillés dans différentes directions. Par exemple, on voulait rester solidaire des communautés musulmanes quand elles sont victimes de racisme, d'un côté, mais on voulait aussi condamner fermement le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les outils, etc. Qui sont, il faut le dire, qui ont été les agresseurs le 7 octobre. Donc ça, c'est une première source de tension. Ensuite, il s'agissait pour des gens comme moi, encore une fois, de rester solidaire de la gauche, qui, après tout, a historiquement défendu les juifs mieux que la droite et a combattu l'antisémitisme mieux que la droite ou que l'extrême droite, mais aussi de rejeter les expressions d'antisémitisme de la gauche dont j'ai parlé dans ce petit tract. Et puis, troisième source de malaise, c'est qu'il s'agit aussi pour nous, Français juifs, de ne jamais remettre en question l'existence même d'Israël, de ne pas remettre en question non plus le droit d'Israël à riposter quand il y a une invasion de territoire, d'un côté, mais de l'autre côté, de se sentir complètement désolidarisé d'un gouvernement qui mène une guerre sans fin, qui a détruit un nombre incalculable de vies, dont la guerre prend un caractère de plus en plus indéfini. On n'arrive pas à savoir de quoi vit et cette guerre. Donc, la communauté juive vit, je pense, depuis le début, plusieurs malaises. C'est peut-être dans ce sens-là seulement, que je ne serais pas d'accord avec la tribune de Delphine Horweiler, mais je voudrais aussi rajouter quand même que pour bon nombre de Français juifs sionistes comme moi et comme Delphine Horweiler, ce ne sont pas nous qui trahissons Israël. C'est Israël qui nous a trahis. Et Israël, non seulement nous trahit nous, mais trahit le sionisme. Il s'agit d'un gouvernement, je tiens à le dire, anti-sioniste. Le sionisme était un projet démocratique pour les juifs et pour les arabes. Il s'inscrivait dans des valeurs humanistes et laïques, et les dirigeants actuels s'inspirent d'un messianisme religieux qui veut plus de solutions diplomatiques et qui veulent une guerre sans fin, il faut le dire.
C'est très fort ce que vous dites, que ce n'est pas vous qui avez quitté Israël, c'est Israël qui vous quitte. Quel est le sentiment
J'ai pas
vous...
dit Israël, j'ai dit les gouvernants.
Bien sûr. Quel est le sentiment qui vous anime quand vous pensez à Israël aujourd'hui? Et je m'appuie sur les sentiments de votre livre. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la honte? Ou est-ce que c'est de la nostalgie?
Alors, je vous avoue, ça dépend du jour. Aujourd'hui, c'est le désespoir. Et c'est un désespoir qui ressemble à celui de beaucoup d'Israéliens. Le désespoir, en fait, c'est une émotion qui naît quand on a le sentiment de ne plus pouvoir agir véritablement sur les institutions ou sur la société. Et le désespoir est une des émotions, je pense que de toutes les émotions, c'est la pire. Elle est bien pire que la haine, parce que c'est celle qui nous conduit à une sorte d'anéantissement de l'action politique et de l'action sociale. Les Israéliens, aujourd'hui, sont dans un état de désespoir. Or, l'espoir est absolument essentiel à la sphère politique. Vous parliez tout à l'heure de la proposition de Macron de reconnaître l'État palestinien. Vous en parliez comme d'un geste symbolique, mais c'est plus qu'un geste symbolique. Je pense que l'efficacité, si vous voulez, de ce geste serait de redonner de l'espoir. Or, l'espoir a une capacité performative très forte dans la sphère politique. C'est-à-dire que, quand on a de l'espoir, on arrive à changer la réalité en fonction de sa croyance. Voilà. Donc, je crois que on a besoin aujourd'hui de ces gestes d'espoir. Même s'ils semblent symboliques, ils sont plus importants que ça.
Alors, on est déjà dans votre livre, même si on n'est pas tout à fait et entièrement dans votre livre. Ce livre, Explosive Modernité, Malaise dans la vie intérieure, on va s'y arrêter avec Gilles et Natacha. Quand même, pour faire la transition, ce malaise intérieur que vous, manifestement, que vous éprouvez aujourd'hui, est-ce qu'il est exactement ce que vous racontez dans votre livre, à savoir qu'il est lié à quelque chose de plus grand, la société, la modernité, l'actualité, parce que votre livre est un aller-retour permanent entre ce que vous avez en vous, ce qu'on a tous en nous, et les injonctions de la société. Est-ce qu'on est déjà dans votre livre quand on évoque votre malaise à vous?
Alors, j'ai essayé de donner une signification plus précise au mot malaise. Et vous avez raison, j'ai fait référence au livre de Freud, mais Freud n'expliquait pas vraiment de quoi il s'agissait. La méthode de Freud, c'était de prendre la psyché et de la projeter sur le collectif. Et de dire que, en fait, c'était l'injonction à réfréner ou à supprimer son agressivité qui crée du coup qui crée du coup une sorte de culpabilité constante qui empêchait nos forces vitales d'émerger. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai essayé de projeter sur les émotions le collectif. Mmh. Et donc, c'est une démarche opposée, mais quand même, ce qu'il y a de commun, c'est la tentative de comprendre, encore une fois, une expérience sociale qui n'a pas vraiment de nom et qui n'utilise pas les mots, par exemple, de déclin, quand on parle de déclin ou de crise.
Oui.
Je n'aime pas ces mots. Je préfère le mot malaise parce qu'il fait référence aussi à l'expérience subjective et des acteurs.
Et du corps.
Et du corps, oui, tout à fait. Donc, c'est en fait ce que j'ai voulu faire, c'est donc prendre un panorama de 12 émotions qui me permettent d'analyser le moment contemporain, mais de comprendre comment ces émotions sont travaillées par des institutions comme, par exemple, la démocratie, le nationalisme, les inégalités, les technologies, les nouvelles technologies, etc. Oui, c'est ça que j'essaye de faire.
C'est en effet le chemin inverse de Freud. Freud, chez lui, il y a des pulsions, et les pulsions se trouvent réfrénées par la société, et donc il vit mal ces pulsions réfrénées. Vous vous dites, bah c'est l'inverse, on va faire le chemin inverse. Il y a dans la société des injonctions, il y a des tensions qui créent ensuite à l'intérieur de nous des malaises, des émotions que vous qualifiez de modernes. Et c'est effectivement tout l'intérêt de votre travail, Gilles.
Vous poursuivez avec cet essai, ce qui est un des fils rouges de votre œuvre, qui est la réflexion sur les émotions. Vous en explorez 12 qui forment autant de chapitres, on en a évoqué quelques-unes, en les analysant au prisme de la sociologie, puisque vous êtes sociologue, mais ce qui fait vraiment, je crois, l'originalité de ce livre, c'est que vous le faites aussi au prisme de la littérature, et deux grandes œuvres de Shakespeare, d'Homère, de Proust, de Flaubert, de Maupassant, d'Ishiguro. Et donc c'est un essai qui est érudit, qui est passionnant et qui est très stimulant. Et je voudrais prolonger en vous interrogeant sur qu'est-ce que vous entendez exactement par émotion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce que nous pensons être le plus singulier, nos émotions, ne l'est pas totalement à vos yeux? Est-ce que vous voulez dire, je vous cite, quand vous dites « les émotions poursuivent le travail de la société en nous ». Et dans l'épilogue, vous citez les vestiges du jour, et notamment cette histoire du majordome qui avait été après à l'écran interprété par Anthony Hopkins comme illustration, je crois, de ce travail que la société fait sur les émotions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça,
Eva Illouz?
Alors, il y avait deux questions. Je les prends une par une. Alors, vous avez tout à fait raison de demander pourquoi les émotions, qui ont été longtemps exclues de la sociologie, à mon avis, doivent être une partie intégrante de la sociologie. D'abord, c'est peut-être pour des raisons historiques. Et pour des raisons historiques, c'est-à-dire que le champ politique, dans lequel finalement on n'était pas jusqu'à il y a 300 ans, fait une utilisation constante des émotions. Hein. Je ne sais pas, un exemple au hasard, Barry Goldwater, dans les années 60, qui redirige complètement le Parti républicain en le droitisant, en faisant appel au racisme des Blancs qui étaient contre les mouvements des droits civiques et la politique de Johnson en 1964. Donc ça, c'est déjà un élément important.
Ce que vous dites là, c'est que les politiques en appellent à nos émotions,
absolument,
appuient sur nos émotions,
absolument,
à des fins politiques.
Absolument. Ensuite, les émotions sont constamment sollicitées par ce que Ernst Bloch appelait des images souhaits, et qui sont profondément ancrées dans la culture consumériste, mais pas seulement consumériste, aussi dans, je dirais, la culture visuelle dans laquelle nous sommes plongés. La culture visuelle, le cinéma, les affiches publicitaires, etc., nous proposent sans arrêt des images souhaits. Ces images souhaits mobilisent des émotions. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que les émotions sont devenues, en fait, et ça, c'est peut-être la grande nouveauté, elles sont devenues la réalité sur laquelle nous nous basons pour décider, par exemple, si cet ami vaut la peine ou pas, si cette relation est une relation dans laquelle je veux m'engager ou pas. Nous consultons sans arrêt nos émotions. Ça, c'est nouveau.
Pourquoi c'est
ça,
nouveau,
c'est nouveau. Ça, c'est nouveau parce que ça a été promu par la culture psychologique. La culture psychologique, c'est un vaste, si vous voulez, c'est un vaste instrument technique, ouais, pour rendre l'expérience émotionnelle comme la jauge et l'arbitre de nos actions. Donc ça, c'était général. C'était
le signe de la sincérité, quoi.
Oui, ou simplement si on est bien ou on n'est pas bien,
oui,
quelque part.
Oui. Hein.
Si on s'ennuie dans un travail, par exemple, parce que je parle dans le livre du, oui, fait que beaucoup de gens quittent leur travail aux États-Unis. Il y a un grand... Il y a beaucoup de turnover. Ils s'ennuient ou ils sont déçus. Donc ça veut dire qu'on accorde énormément d'importance à nos émotions.
Vous aviez écrit « Apicratie » précisément sur la culture du, oui, bonheur en entreprise.
Oui.
Non, mais
oui,
il y avait un peu de ça, c'était, oui, déjà,
oui,
l'idée.
Oui, oui. Donc là, je dis simplement pourquoi dans oui, oui, la période moderne, c'est important d'étudier les émotions. Mais ensuite, les émotions, c'est ce qui, vous savez, émouvoir. Et émouvoir, ça veut dire aussi pousser à l'action, c'est mettre en mouvement. Quand on arrive à émouvoir, ou quand on s'émeut, c'est qu'on rentre dans une action. Et je pense que cette action est fondamentale pour comprendre comment on se positionne dans une interaction. C'est ça une émotion. Une émotion, c'est une indication sur ce que je ressens maintenant dans une interaction. Mmh. Si vous me parlez, par exemple, et vous me dites un mot un tout petit peu blessant, je ne vais pas forcément conscientiser le mot blessant, je vais ce que je vais ressentir, c'est un sentiment de honte ou d'embarras. Ce sentiment de honte ou d'embarras indique quelle a été l'interaction. Donc, si vous voulez, c'est une façon très rapide. L'émotion est une cognition très rapide. Elle nous fait réfléchir très rapidement.
Et elle nous permet de communiquer ou d'imposer aussi une domination sur quelqu'un d'autre. C'est aussi un outil de domination.
Et je rajouterai, je finis avec ça, que les émotions sont étroitement indépendantes des idéologies. Ouais. Quand un Stéphane Hessel écrit « Indignez-vous », et il nous propose une orientation tout à fait différente à celle d'une Laetitia Brooke Bonnard, elle nous propose de nous orienter vers la gratitude. Donc en fait, les orientations émotionnelles sont aussi façonnées, si vous voulez, par des grandes idéologies. Mm-hmm. Et c'est dans ce sens-là que on ne peut pas analyser une émotion sur le plan sociologique sans faire constamment le va-et-vient avec la question des idéologies et des structures sociales dans lesquelles elles émergent.
Natacha.
Alors, je tiens à souligner à quel point votre livre se lit facilement et de façon absolument limpide et à quel point il est passionnant. Mais véritablement passionnant.
Et ça, voilà qui touche une émotion chez Eva Illouz.
Non, mais c'est pour dire à nos auditeurs à quel point c'est une lecture bienfaisante. Oui. Vos réflexions, en fait, m'ont fait penser au travail de Cornelius Castoriadis, qui expliquait que chaque société, je résume très simplement, que chaque société produit un type humain, et selon lui, le consumérisme produit un individu narcissique, et son idée était de contredire cette idée que la consommation conduirait à limiter la violence, et en fait, il disait au contraire, ça nourrit le narcissisme, et ça donc nourrit la frustration. Et donc, ça réveille des pulsions violentes. Est-ce que vous vous retrouvez un tant soit peu dans cette thèse, parce que quand vous parlez de l'espérance, vous avez évoqué cela tout à l'heure, le fait que l'espérance est une émotion finalement beaucoup plus prégnante depuis les Lumières, et l'idée que l'espérance n'est plus dans une transcendance, mais au contraire dans une immanence, et qu'on peut la vivre. Vous évoquez l'idée, page 162, qu'il y a un lien entre l'envie et la dépression. Bref, est-ce que le capitalisme consumériste, en fait, est entré en contradiction avec la promesse qu'induisaient les Lumières d'une émancipation incarnée par ce sentiment d'espérance ?
Eva Illouz.
Encore une fois, il y avait plusieurs questions, je vais essayer.
Ah non, Natacha ne pose jamais plusieurs questions en une.
Alors, vous avez raison de dire que l'espoir, et c'est comme ça que le livre en fait commence, il commence avec l'espoir comme émotion que je vois absolument constitutive du contrat social des sociétés modernes. Et cet espoir est constitutif de ce contrat parce que il est fondée sur l'idée que quand les ordres disparaissent, c'est la mobilité sociale et la méritocratie qui accompagne la méritocratie qui vont justifier ce nouvel ordre. Et quand on y pense, l'espoir, en fait, existe dans à peu près toutes nos actions. Que ce soit l'investissement dans des actions boursières, aller à l'université, ou même se marier. On n'entrait pas dans une structure avec des rôles assez rigides et fixes. On entre dans une institution et on a l'espoir qu'on va y être heureux. Donc, l'espoir est absolument constitutif de la modernité dans ce sens-là. Donc, à partir de là, il y a énormément d'institutions, justement, et notamment à partir des années 80, puisque là, il y a aussi un mouvement historique qui se met en place, vont trahir ce présupposé fondamental de ce que c'est qu'être un acteur moderne. Alors, pour revenir à Castoriadis, Alors, oui, la frustration, effectivement, est une partie inhérente de la culture de consommation. Je parle de ça en des termes un tout petit peu différents.
Oui, oui, je sais.
Je parle de la, du désenchantement et de la déception, qui me semble être un affect beaucoup plus important.
Oui.
Mais là où je diffère, si vous voulez, encore plus de Castoriadis, tel que vous l'avez cité, c'est que, pour moi, ces affects sont toujours productifs. C'est ça qui les caractérise. Mmh. C'est-à-dire qu'être déçu, quand Emma Bovary est incroyablement déçue, et elle ne peut pas rembourser ses dettes, elle se suicide. C'est pas du tout ce qu'on ferait aujourd'hui. La déception engendre un grand nombre de pratiques pour, justement, contrecarrer la déception. Et donc, dans ce sens-là, la société, si vous voulez, démocratique, ne tient pas sa promesse, mais continue de nous faire travailler de l'intérieur pour essayer d'achever la promesse. Lorraine Berland, qui était une très grande intellectuelle américaine, avait parlé, pour cette raison, d'optimisme cruel. Et l'optimisme cruel, c'est ça, c'est celui qui nous fait constamment croire dans les possibilités de notre vie, mais nous fait constamment faire face aux limites et aux contraintes qui pèsent sur nos espoirs et nos rêves.
Mais Eva Illouz, est-ce que ça ne produit pas un autre sentiment que je considère être au cœur de notre modernité aujourd'hui? C'est la nostalgie. Si l'espoir se transforme en déception, est-ce que la conséquence n'est pas la nostalgie? Et vous avez évoqué le consumérisme. Combien de publicités appuient sur la nostalgie? Vous avez parlé de politique, « Make America Great Again », c'est un slogan nostalgique. Est-ce que la nostalgie n'est pas le sentiment aujourd'hui qui emporte l'ensemble de nos émotions?
Oui, alors c'est un sentiment paradoxal, parce que, en tout cas dans le slogan « Make America Great Again », parce qu'il regarde à la fois vers le passé et vers le futur. Ce qu'il promet, c'est la restitution ou la restauration d'une grandeur passée qui n'a jamais existé. Et on s'aperçoit en fait que la nostalgie joue un rôle très important dans les discours d'extrême droite. C'est ce que je dis dans le livre. Elle s'accompagne d'un autre sentiment que j'analyse et qui n'a pas une très bonne traduction en français. C'est le sentiment de homelessness. Homelessness, alors la nostalgie, c'est le fait que un endroit dont on est loin nous manque. Donc il s'agit d'une scission géographique. La homelessness, c'est autre chose. C'est être dans un endroit, vivre dans un endroit et ne plus le reconnaître. Parce qu'il a été défiguré.
Il y a un concept, hein, c'est la solastalgie. Concept australien, la solastalgie.
C'est ça.
C'est pas un lieu qu'on quitte, c'est un lieu qui nous quitte.
C'est ça, exactement. Et j'en parle aussi. Voilà. Donc la homelessness, c'est le fait de sentir que son univers ne fait plus écho à ce qu'on connaissait. Et c'est à partir de cet affect, en fait. C'est pas seulement pour aller vers le passé, c'est aussi prendre le temps présent et dire « ce temps présent n'est plus ce qu'on est. Cet espace n'est plus ce qu'on est. » Et c'est à partir... Et c'est donc en combinant, si vous voulez, la nostalgie et le sentiment de homelessness, d'avoir perdu son habitat, d'avoir perdu ce qui nos points de repère. C'est ça qui, à mon avis, est utilisé à outrance par les discours d'extrême droite et qui sont basés, encore une fois, sur une promesse paradoxale de repartir vers le passé.
Et là, on est exactement dans votre livre, parce que c'est l'extérieur qui a des conséquences sur l'intérieur. Il nous reste 2 minutes, une petite question, Gilles, et pardonnez-moi, Eva, une petite réponse.
Eh ben, c'est fini déjà?
Pas encore, il y a encore une question et une réponse. Et avec une petite question très courte, mais compliquée. Et la démocratie dans tout ça? Parce que quand la peur devient un champ de bataille, comme vous le dites, quand la nostalgie change de terrain, passe de l'espace au temps, quand l'espérance, la projection dans l'avenir fait défaut, comment nos démocraties peuvent-elles résister?
Eva Illouz.
La démocratie, c'est un projet qui est très paradoxal, parce que c'est au fond un projet utopique. Souvent, on présente la démocratie comme une solution pragmatique pour permettre à des gens différents de vivre ensemble. C'est vrai, mais c'est pas seulement ça. Ce ne sont pas que des procédures, et c'est pas qu'une solution pragmatique. C'est aussi un projet utopique qui est travaillé par des promesses de l'égalité, par exemple, de la fraternité, de l'abondance et du bonheur. Hein. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, le bonheur est inscrit
dans la Constitution.
Dans la Constitution. Mais on sait depuis Marx que il y a depuis le départ une contradiction entre égalité formelle et égalité de fait. Et c'est, si vous voulez, cette contradiction fondamentale qui est à l'origine de l'instabilité des démocraties et de la colère souvent que les démocraties engendrent.
Merci beaucoup. On aurait encore tellement de choses à vous dire, mais on a beaucoup de choses à vous lire. Explosive modernité, malaise dans la vie intérieure, ça sort dans 2 jours chez Gallimard. Merci beaucoup Eva Elise d'avoir été notre invitée aujourd'hui du Grand Face à Face.